De Fougères en libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Bonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre le cours de notre promenade sur le chemin de halage de la Mayenne en compagnie de Monique Leroux Serre qui a suivi à pied et en solitaire le chemin de halage de la Mayenne il y a quelques années, rédigeant dans la tradition des poètes japonais un journal de voyage mêlant prose et haïku, c'est donc ce fameux haïbun. La pluie se fait tenace. Le cadran des heures et des saisons semble reculer. Du foin qui séchait sur les prés hier, on repasse aux fleurs mouillées et à la fraîcheur printanière. Les oiseaux, toujours omniprésents, sont plus discrets avec les nuages et le vent. Et je marche, libre et légère, nuage et eau, comme disaient les anciens poètes japonais. J'aime les nuages. Comme Virginia Woolf a écrit sur les vagues, un jour, écrire sur les nuages. Tous, les cirrus, les stratus, les cumulus, les nimbus, eux tous qui nous accompagnent, nous voient, tamisent ou libèrent la lumière qui nous est réservée, agissent sur nos humeurs, teintent nos vies et nos esprits. Écrire aussi sur la vaste étendue du ciel. Ce ciel qui occupe sans cesse la moitié de notre champ de vision, son bleu, sa lumière ou ses mouvements. J'arrive à l'écluse de l'âme. Quel beau nom! Je pense à Ludovic Harry, mon collègue en écriture. Un jour qu'il allait à vélo par les petites routes de Paris en Bretagne, il est tombé sur une pancarte « Écluse de l'âme ». Il fut tellement surpris par l'expression qu'il la photographia. Un grand tirage est installé dans son petit appartement d'artiste parisien, impasse Caulaincourt, et quand je vais assister chez lui à la lecture de l'un de ses nouveaux textes, j'ai sous les yeux cette image de la Mayenne de mon enfance. Dans le bief, j'observe longuement une danse de bergeronnettes en plein vol, dans un nuage d'insectes. L'écluse doit être habitée, car la maison est entourée d'une petite barrière blanche toute neuve, et bordé de plantations de pétunias et lavataires en début de floraison. Ma main sur la pierre caresse une date ancienne, la buée de mon souffle. Ma main sur la pierre caresse une date ancienne, la buée de mon souffle. Derrière la maison, on aperçoit aussi une pelouse avec un portique de balançoire et au fond un potager. Mais il n'y a personne. Sur la porte, un affichage explique que l'éclusier est chargé du fonctionnement de plusieurs écluses et de l'entretien du halage et qu'il est actuellement sur un autre site et qu'il ne peut donc nous renseigner. Puis, après les excuses, on nous souhaite une bonne promenade au bord de l'eau. J'aime cette dernière phrase, étonnante sur une circulaire. Au-dessus de la porte est encadrée la reproduction d'une peinture très colorée intitulée « La Mayenne étonnante par nature » d'un certain Leb. J'y retrouve le style naïf, hors convention, de nombreux artistes locaux, Henri Rousseau, Alfred Jarry. Je regarde par-dessus le muret les installations conservées mais inutilisée maintenant de la frayère en briques construite au XIXe siècle en même temps que l'écluse. À côté, un grand panneau explique la vie du brochet, espèce patrimoniale. Œufs gélatineux pour remonter les barrages, le nerf du brochet. Œufs gélatineux pour remonter les barrages, le nerf du brochet. C'est alors que j'entends arriver une mobilette. C'est l'éclusier. Il est très affable et aussi très cultivé. Il explique que l'origine du nom de cette écluse, Am, est un vieux mot d'origine celtique signifiant eau. Il ajoute qu'on le retrouve dans de nombreuses appellations des alentours, celle de la ferme, d'un lieu-dit, parce que justement en amont se trouvait un gué très ancien. La traversée des cours d'eau était un grand souci pour nos ancêtres. On traversait la rivière à des gués qui présentaient de grands dangers à certains moments de l'année. Aujourd'hui, on passe sur des ponts sans toujours penser à l'eau qui coule en dessous. Néanmoins, les ponts restent rares encore dans cette région et, comme sur la Loire, il faut faire parfois beaucoup de kilomètres pour passer de l'autre côté. Je reprends la marche, bien protégé sous mon capuchon. Je passe l'écluse de la Ménianerie, assez pimpante, avec la peinture récente, bleu ciel, et des parties mobiles métalliques de l'écluse. Mais elle n'est plus habitée. Sans doute la maison a-t-elle été squattée car elle est taguée. La porte, dont le linteau porte la date de 1854, date de la construction des écluses sur la Mayenne, et les fenêtres du rez-de-chaussée sont obstruées par un maçonnage grossier de briques en béton. Puis la pluie s'arrête. Longtemps, d'importants égouttements tombent des arbres, comme un roulement de petites billes qui, dégringolant des hauts étages des ramures, vont former de grands ronds dans l'eau. Je dépasse un ponton de pêche pour handicapés, inoccupé à 7 heures. Je suis étonné par cette sollicitude administrative, comme m'amusent aussi ces panneaux d'alerte où l'on voit un pêcheur bleu marine sur fond jaune lancer sa ligne sur une rangée de fils électriques d'où s'élance un grand Z. En fin de parcours, je longe un petit champ où broute un âne à l'air triste sous la pluie. Il me rappelle l'âne Lily de mon grand-père, qui le dimanche promenait à la fois ma sœur, mes deux frères et moi-même. Étant la plus petite, on me calait toujours à l'avant, au ras de l'encolure, place qui me plaisait moyennement. Si l'âne venait à brouter, la chute était assurée. Le fond du champ est pour moitié planté de pommes de terre en fleurs, pour autre moitié, réserve de rouleaux de foin serrés les uns contre les autres et bâchés d'un plastique vert. J'aime ces lieux entre deux qui ne sont plus jardins d'agrément ou potagers, mais pas encore territoire agricole ou nature sauvage. Ces lisières où certains hommes trouvent à faire à l'écart de la société. Où que j'aille dans le monde, ce sont ces lieux-là qui me plaisent le plus. Je longe un parking et j'arrive au pont qui me mène à Saint-Jean, accroché très haut sur le coteau d'en face, où j'ai réservé une chambre chez l'habitant. Été pluvieux, dans le salon froid et sombre, le jasmin du thé. Été pluvieux, dans le salon froid et sombre, le jasmin du thé. Troisième jour. Je reprends le chemin vers 10 heures. Comment rendre le chant multiple, omniprésent, des différents oiseaux? La rivière Brun-Vert, parsemée çà et là de quelques mousses crème, progresse doucement. Sur ses bords se reflète la base claire des pierres et des racines couvertes de boue séchée. La berge d'en face est attaquée par les ragondins. J'ai lu, affiché aux écluses, un avis de lutte contre ces nuisibles. À d'autres endroits, le bas-côté du chemin est constellé des nombreux tipis de terre fraîche d'une taupe. Au fil du crayon, la rivière avance aussi sur le carnet. Au fil du crayon, la rivière avance aussi sur le carnet. Plus que la rivière encore, j'aime le chemin de sable clair du halage qui, la suivant, sinue en larges courbes ou s'élance dans des lignes droites bordées d'une clôture de pieux et fils barbelés le long d'un herbage où dorment quelques troupeaux crème sous un chêne royal. Un papillon roux visite les éclats de lumière sur le tronc noueux. Un papillon roux visite les éclats de lumière sur le tronc noueux. De Fougères en libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Marchant au fil de l'eau, j'admire les grands châtaigniers en fleurs, souvent entaillés épais sur un versant falaise, inculte, créant un ombrage sombre, originel. Le halage est régulièrement bordé de rangées de hauts peupliers alignés et porteurs de grosses boules de gui plus foncés. Et puis, il y a les frênes aux feuilles découpées, les érables aux fruits cerfs-volants, les aulnes, ou alors de gros taillis de noisetiers et leurs inévitables écureuils. Un grand moulin est entouré des vieux saules pleureurs, ces arbres que je n'ai su apprécier que sur le deuxième versant de ma vie, en lisant la poésie japonaise, puis en découvrant les grands paysages de la Chine profonde. Finir par croire, cheminant au fil de l'eau, être immuable. Finir par croire, cheminant au fil de l'eau, être immuable. Vers midi, sous un ciel gris, je mange un casse-croûte, assise sur un banc en face d'une ferme au toit d'ardoise. Entre la ferme et la Mayenne, un petit champ avec quelques gros rouleaux de foin coupé. Dans l'herbe, passe princier un long chat jaune et blanc. Le lieu n'est pas sans rappeler le Gast, la ferme familiale de mon adolescence, à quelques encablures d'ici, entre Mélède humaine et Sablé-sur-Sarthe. La cour de la ferme est embellie par un imposant marronnier. Dans le champ, entre les rouleaux de foin, apparaît une poule rousse solitaire qui picore. Aucun bruit ni mouvement dans la ferme. Les habitants doivent être absents ou en train de déjeuner. Autour du banc, l'herbe du chemin est constellée de plantains. Enfant, on nous envoyait le ramasser pour les lapins des clapiers. Les oiseaux sont calmes à cette heure, presque silencieux, sauf ici et là, parfois, une courte trille. Les oiseaux font-ils aussi la sieste estivale comme les hommes? Le temps se fait lourd sous un ciel pommelé gris. Des nuages, avec des cernes plus foncées sur le bord, comme des coulures d'aquarelle, arrivent de l'aval, tandis qu'en amont des trouées montrent l'azur bleu dragé bordé de moutons blancs. Claquement, comme un ou deux applaudissements, d'un pigeon qui s'extirpe à tire-d'aile de la ramure d'un arbre sur la rive d'en face. Grand calme dans l'esprit. Des libellules noires, moirées bleutées, battent des ailes à toute vitesse, puis se reposent, presque sans appui, sur la lame arquée d'une feuille d'iris. L'eau la dessine, puis l'eau l'efface, la touffe d'iris. L'eau la dessine, puis l'eau l'efface, la touffe d'iris. Haïku de Chioni. Dans cet univers tout minéral et végétal, sans rencontres humaines, je viens à penser au manque de peau, de chair, envie que ma main rencontre une peau à caresser, et tout particulièrement la peau d'un petit enfant, ce summum de douceur dans la création quand on la compare à l'écorce, à la pierre. Cette matière si douce, si chaude, si vivante, cet improbable tissu que l'on perd après sa mort pour ne laisser que les os. Dans le champ au rouleau de foin, vaguent maintenant six poules rousses. Je me remets en route. Juste après une écluse, Je dépasse, dans un beau vallon digne d'une création du monde, un verger de pommiers bas, dont les troncs assez minces pour la ramure sont parfois nettement penchés. Le vent, ce même vent qui fait frissonner et bruire comme une forte averse la ramure des peupliers, m'apporte de temps à autre un bruit métallique ou un klaxon. Je m'approche de l'immense chantier de la ligne TGV Paris-Rennes. Au fond de ce bruit, le lointain chuintement d'une chute en amont. Train grande vitesse, trait de cutter soudain, entre hier et demain. Train grande vitesse, trait de cutter soudain, entre hier et demain. Étrangement, entre le nouveau pont du TGV et le pont de l'autoroute tout proche, une maison unique reste habitée avec les poules dans la cour, ses clapiers. Une chèvre a même sa cabane dans le talus terreux sous le pont. Plus loin se dresse le château italien du Ricoudet. Juste devant, quelqu'un a disposé au bord de l'eau un vieux placard en bois en guise de cabane. C'est amusant comme les enfants pauvres jouent à s'inventer des châteaux, et les adolescents privilégiés, pour se protéger de la richesse, se construisent à l'écart une masure. Je longe un bel étang bordé de quelques iris jaunes en fleurs. Au bord de l'étang, une libellule rouge vif, légère douleur. Au bord de l'étang, une libellule rouge vif, légère douleur. Ensuite, c'est le terrain de golf, bien entretenu mais désert. Me rapprochant d'une zone plus habitée, je rencontre quelques couples à pied en tenue de vacances, jogging, polaire et casquette, un cycliste et plusieurs coureurs à pied, toujours très affables, qui saluent, des jeunes, des seniors aussi. Beaucoup d'hommes et quelques femmes en pantalon, collant noir, mi-jambes et t-shirt, une femme noire me croisant, pour rien, un sourire. À l'approche de Changé, des jardins coquets sur la rive d'en face reflètent dans l'eau leurs roses, leurs hortensias. Les maisons modestes prennent des petits airs de villa, avec le pourtour de leurs ouvertures en briques bicolores, leurs volets bleu ciel, une ou deux tourelles avec épis de faîtage en zinc, un ponton. Avec la rive, une barque parlemente. La journée s'étire. Avec la rive, une barque parlemente. La journée s'étire. Un haïku de Chiki. On entend les voitures sur la route qui longe l'autre rive, mais surtout, surtout, les arbres, les bois sont tout bruissants de gazouillement. Les oiseaux partout s'en donnent à cœur joie, et des tourterelles roucoulent ça et là. J'atteins le camping. Au pied d'un camping-car, un vacancier en short est en communication, portable, à l'oreille. Au bord du chemin sont disposés pour les touristes de grands panneaux d'information, la carte du chemin de halage, l'histoire de la canalisation de la Mayenne, le fonctionnement des écluses, les écourus, les arbres, les poissons, les plantes, la faune. Entre les deux rives de Changé, passe et tourne dans toute la largeur de la rivière le Vallis Guidonis, le bateau de tourisme de Laval, très long, crème avec deux larges bandes rouges, tout vitré, plein d'enfants assis, en sortie scolaire sans doute. Cri fracassant d'une classe d'écoliers quand je passe sous le pont de Changé. Thank you. De Fougères en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Je décide de poursuivre vers Laval afin d'apercevoir la chapelle de Pritz. Mais le chemin est envahi de tintamarre et de poussière, car de nombreux groupes d'élèves du primaire rentrent à pied par le chemin de halage. Ça traîne les pieds, ça s'agite, ça crie. Quand on ralentit le pas pour laisser passer et qu'on croit en avoir fini, ce sont les clameurs éloignées d'une autre classe derrière qui se rapprochent. J'apprends par une enseignante que ce sont toutes les classes d'une école privée en sortie de fin d'année. C'est aussi l'heure de la promenade des adultes, souvent des femmes, deux par deux. J'arrive devant Pritz, mais je ne vois rien. Je devine à peine un bâtiment à travers les feuillages d'une ligne de peupliers sur la berge d'en face. Un couple de seniors que j'interroge me confirme que c'est bien là la chapelle de Pritz. Je m'assieds sur une borne pour attendre la fin du passage des classes avant de repartir bredouille et déçu. Un petit garçon me dit « Vous en avez la chance, madame. Vous avez le droit de vous asseoir. » Sur le coup, je n'ai rien à répondre à sa déception d'être petit et de ne pas être libre de ses mouvements. Enfant, j'ai détesté la collectivité. J'ai trop connu la pension durant 7 ans et ces sorties marchent obligatoires, m'éloignant du rapport à la nature que j'avais à la ferme. J'aurais aimé trouver un mot pour consoler ce petit. Il est déjà loin. Puis la poussière retombe et le silence se réinstalle. À nouveau, j'entends le vent, les oiseaux. Je regarde l'eau de la rivière filer. On dit au fil de l'eau, au fil du temps, au fil des mots. On parle du cours de la rivière, du cours des choses, de la course du soleil et des astres, de l'eau qui passe sous le pont. Que de mots et d'expressions pour parler du temps qui passe. Je pense au calendrier roman dans la chapelle de Pritz, en face. Les premiers hommes ont dû mesurer le temps en comptant leurs pas. N'appelle-t-on pas journal la surface qu'un laboureur à pied peut labourer en un jour? Et j'écris un journal. Les hommes ont ensuite mesuré le temps avec des horloges à eau, des sabliers, des bâtons d'encens ou des chandelles. Le temps passe, mais l'élan du temps est rythmé par des retours d'événements comme les nœuds sur une tige de bambou, disent les Asiatiques. Nos anciens savaient aussi compter le temps et reconstituer l'histoire du climat en lisant les cernes sur les troncs coupés. Assise au bord de la rivière, je ne peux ce soir qu'imaginer la chapelle, mais demain je la visiterai. En revenant vers Changé, je regarde de larges flottilles blanches, soudain là, serpentantes au gré des courants de la rivière. Ce sont vraisemblablement, sous l'effet du vent, des quantités énormes de chatons de peupliers qui s'agglomèrent comme des coulées d'écume. Longtemps, je contemple une nappe de nénuphars jaune en fleurs. Je rentre à Changé vers 17h et m'installe à l'hôtel des voyageurs, moderne, rénové en béton. Tout juste fonctionnel. Pour dormir, point. De ma fenêtre en PVC sans rideau, je vois le rond-point très fréquenté sur la route de Laval à 7h et le monument aux morts. Rien au mur, une seule lampe au plafond, pas de table de nuit. Je sors sur une sorte d'esplanade et je descends les 2 étages par un escalier métallique en plein air pour aboutir sous un porche qui sert d'entrepôt aux chaises en plastique et aux sacs de linge pour le pressing. Le centre-ville est en travaux. Un grand projet immobilier avec destruction des vieilles maisons et construction sur le carrefour principal de 2 immeubles. Alors je me dirige vers les commerces et le café presse, momentanément relogé dans une grande salle de la commune sur la place de la mairie. J'achète Ouest France et les nouvelles de la Mayenne, puis je m'installe dans la vaste salle où quelques tables sont occupées par des hommes qui regardent le tiercé à la télé. Il se trouve que le Ouest France du jour contient un supplément sur l'économie de la région. J'y apprends que Changé, où je me trouve, est la commune la plus riche du département avec le plus grand nombre de personnes qui payent l'ISF, ce que pouvaient laisser supposer les châteaux, les lotissements assez cossus et le golf en bord de Mayenne. Je sors et visite les alentours. Près de la rivière, sous les dernières arches du pont ancrées dans la terre ferme, je découvre une expo photo de vieilles cartes postales de la ville, montrant une femme penchée avec sa cruche le long d'une paroi. Je vais voir l'église, je fais un peu le tour du vieux bourg à pied et entre à la médiathèque ouverte. Je demande des livres sur la commune, ce qui met en joie le personnel. On y lit que le pont de Changé, alors en fonte, fut bombardé le 30 juillet 1945 par les Allemands pour retarder l'avancée des Alliés. Le bourg fut soufflé et tous les vitraux de l'église furent détruits. Pendant 12 ans, on ne put traverser la Mayenne que sur une passerelle de bois. On y apprend aussi que le chemin de halage, aménagé dans la seconde moitié du XIXe siècle, fut utilisé par les chevaux qui tractaient les péniches jusqu'à l'arrivée des automoteurs avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je vous propose que nous établissions notre campement à Changé et de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle étape sur le chemin de halage de la Mayenne de Fougères en Libellule en compagnie de Monique Leroux-Serre.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard, ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. J'aime flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur, des grands boulevards.